Je m'appelle Paco Prada, je suis psychiatre et psychothérapeute aux hôpitaux universitaires de Genève. Je m'occupe là plus particulièrement d'une unité de crise pour des patients qui traversent une période de crise suicidaire. Une crise, c'est une perte d'équilibre intra-psychique, une perte d'équilibre à l'intérieur de moi, par rapport à comment je me sentais auparavant. Bon, la crise fait partie de la vie, on a des moments de déséquilibre plus ou moins grands qui engendrent une certaine souffrance. Ces déséquilibres sont des déséquilibres dans nos relations, mais aussi dans nos représentations, dans comment on peut se voir soi-même. Et puis, ça devient une crise qu'il faut prendre en charge quand ça revient pas spontanément à l'équilibre. Et alors, en général, on sent une souffrance qui s'installe. Cette souffrance peut devenir beaucoup plus intense, ou alors nos ressources être moindres pour l'affronter. Puis, on va souvent la considérer comme une difficulté à imaginer l'avenir dans cet équilibre perturbé. Donc, en général, on peut remarquer que ça a des conséquences sur notre fonctionnement. Donc, c'est l'impact de ces déséquilibres sur notre capacité à faire face au quotidien qui va nous donner la puce un peu à l'oreille. Est-ce que je suis dans une crise qui mérite des soins? Parce que si cette difficulté que j'ai à me projeter est intense, qu'elle me fait beaucoup souffrir, je peux être désespéré au point de vouloir envisager que tout ça s'arrête. Je me trouve coincé entre ne pas pouvoir revenir en arrière et ne pas supporter d'aller vers l'avant. Et puis, il y a des idées suicidaires. Alors la crise, elle évolue. D'abord, il y a un moment de pré-crise, c'est-à-dire on remarque souvent qu'elle s'installe un petit peu progressivement. Il y a comme des petits bouleversements dans les équilibres de la personne, mais ça tient encore le coup. On a encore l'idée ou la perception que tout peut revenir un peu comme avant. Puis très souvent, on retrouve un événement qui déclenche la crise de manière brutale. Je crois que les gens sentent exactement quand tout d'un coup, il n'y a pas de retour en arrière. La difficulté, elle est de l'identifier. Soit la personne elle-même, soit son entourage, soit les soignants. Ils ont de la peine à le reconnaître comme tel parce qu'ils le trouvent insignifiant. Mais c'est pas l'événement en tant que tel qui a les conséquences. C'est ce qu'il représente pour la personne. C'est-à-dire, c'est un peu comme cette fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est le dernier d'une longue suite d'événements. Si on veut bien, c'est pas une petite goutte d'eau, c'est-à-dire que c'est une petite goutte d'eau qui contiendrait toute la souffrance que cette personne-là cherche à éviter depuis un moment. Elle a cette caractéristique-là précisément. Il s'agit, par exemple, d'une petite goutte d'eau d'abandon qui vient se lier à une histoire de vulnérabilité personnelle au sujet de l'abandon. Alors ça peut être en apparence un petit abandon, mais c'est bien la nature même de ce que c'est qui compte. À ce moment-là, tout s'effondre assez rapidement pour la personne, donc elle n'a plus la capacité à envisager l'avenir, elle ne voit pas comment elle peut faire, et ça s'accompagne souvent de symptômes tels que de l'angoisse très forte, panique, éventuellement de la tristesse, de la rage, de la difficulté à réguler ses émotions, de la difficulté à pouvoir penser à autre chose, de la difficulté à pouvoir affronter son quotidien. Ces symptômes peuvent aller jusqu'à des idées suicidaires ou jusqu'à des comportements suicidaires. C'est difficile de s'en sortir par soi-même. Alors, il y a deux grandes étapes. La première, c'est de diminuer un petit peu la souffrance pour sécuriser un peu la personne, c'est-à-dire pour qu'elle puisse ne plus envisager, par exemple, le suicide. Alors, pour moi, ça prend d'une part de pouvoir être un peu entendu, ça veut dire quelqu'un qui vienne à notre rencontre pour explorer qu'est-ce qu'on vit, qui accepte de voir le monde selon notre perspective. Pas le changer, pas essayer de nous convaincre qu'on vit quelque chose de faux, juste explorer comment on vit la chose. Ça peut diminuer un petit peu la souffrance, c'est-à-dire ça peut donner comme un sens de valider notre expérience. Parce que c'est étrange quand même que d'en arriver à avoir des idées suicidaires pour les gens. Et puis, ensuite, cette validation, elle fait pas tout. Et On peut aussi proposer à la personne de voir le monde à travers notre regard, et c'est-à-dire lui permettre de se voir de l'extérieur, de comprendre en quoi elle participe peut-être. Donc la deuxième partie, plus complexe, c'est de trouver la force et l'énergie pour la personne de se mobiliser à comprendre en quoi elle a participé à la crise. On va essayer de voir qu'est-ce qui conduit à la souffrance. C'est surtout là-dessus qu'on va s'intéresser, pour que ces équilibres à l'avenir soient meilleurs qu'ils ne l'étaient avant la crise. Mais comme proche, je pense que essayer juste de comprendre qu'est-ce qui est à l'origine de la souffrance, c'est déjà beaucoup. La crise ou les crises, c'est très individuel. On a chacun notre manière d'entrer en crise. Alors on peut être en crise très régulièrement, ou alors très rarement, mais de manière très abrupte et extrêmement sévère. Pour les crises très répétées, c'est bien d'avoir un plan un peu construit à plusieurs, soignants, patients, proches. Qu'est-ce que je fais en numéro 1? Est-ce que c'est un appel à un ami? Est-ce que c'est essayer de s'aérer l'esprit? Est-ce que c'est une douche froide? Est-ce que c'est de prendre une réserve de traitement médicamenteux? Est-ce que c'est d'aller aux urgences? Est-ce que c'est... Voilà. En fonction de la tension émotionnelle ou en fonction des idées suicidaires qui seraient absentes au présent. Et puis, il y a une autre partie qui vise à aider la personne qui sera en crise à communiquer aux autres qu'est-ce qu'elle vit. Parce qu'elle est peut-être plus en état de le communiquer, mais elle a quand même besoin que ce soit compris. Et donc, il y a normalement des formulations, on appelle ça des formulations, des petites descriptions de comment elle peut se sentir et ce à quoi ça peut ressembler pour les autres dans ces moments-là. Par exemple, je me sens abandonné, mais je vous rejette. Et pour celles qu'on voit pas venir et qui seraient de très grande intensité, je pense que il faut aller vers la demande d'aide dans la mesure du possible. Si la personne peut pas le faire, les proches peuvent le faire à sa place. Et là, ça, il faut pas hésiter. Peut-on éviter les crises? La réponse, c'est non. On peut pas éviter les crises. Elles sont souhaitables, les crises. Elles nous permettent de grandir. C'est des opportunités aussi pour mieux nous comprendre. Mais il faut pas qu'elles nous détruisent. La crise nous pousse en général à vouloir revenir à l'état antérieur. Mais ça, c'est un leurre. C'est un signal d'une nécessité de changement. La crise nous renseigne sur le fait que dans l'état dans lequel on était avant la crise, il y a des choses qui ne vont pas. Je crois vraiment qu'il faut essayer d'apprécier nos fragilités, celles qui sont mises à mal pendant nos crises, pour en faire des biens précieux, parce qu'alors on sera mieux veillant envers nous-mêmes.